Donc, pour rappel, la charge mentale, tout le monde voit ce que c'est, mais...
C'est le fait que, notamment dans la...
C'est assez intéressant. Bah, tu veux dire en quelques mots, ouais, est-ce que c'est la charge mentale?
C'est notamment dans les foyers, mais ça peut être, donc, ça peut être dans les colocations. C'est surtout dans les couples et dans les familles, mais ça peut être dans les colocations, etc. C'est que les femmes vont non seulement faire plus du travail domestique, mais elles vont aussi penser à toutes les choses. Elles vont penser que demain, il faut qu'elles fassent ça. Elles vont penser que...
La logistique.
C'est ça. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que juste faire la lessive. C'est penser que demain, il faut faire la lessive et qu'en passant, il va falloir faire ça, il va falloir faire ci. Et donc, elle donne des exemples où, je sais plus, elle demande à son mec de genre mettre un truc, de laver un truc. Et pour elle, ça va être lance le panier de lessive, puis il lave juste le seul truc où elle lui a dit qu'il fallait... Enfin, un seul objet parce qu'il n'y a pas... C'est aussi le truc de... Les femmes, par exemple, comme on t'apprend à penser ton déplacement, à économiser, à être la plus efficace possible, bah, si tu sors, tu vas te servir ton plat, t'as fini ton entrée, tu vas aller te servir dans la cuisine ton plat principal, tu vas ramener les trucs qui sont pas sur la table, alors que, enfin, ça, c'est un comportement très appris par les, qu'on a du coup aux femmes, etc. Enfin, c'est des réflexes comme ça que les hommes n'ont pas dans le foyer et qui sont, au final, épuisants. Et que c'est toute une partie du travail, c'est le je crois qu'elle dit dedans que c'est la partie immergée de l'iceberg.
Oui, c'est quelque chose d'invisible. Et j'ai une amie qui travaille dans les ressources humaines qui fait toute une comparaison entre manager et tâche managère, en disant qu'au fond, c'était un peu, il y avait une part de travail invisible qui était très importante, mais que quand on est manager, on est extrêmement valorisé, tandis que quand on fait les tâches managères, un petit peu moins. Donc voilà. Mais oui, c'est cette idée de mettre les mots charge mentale, et c'est vrai que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes qui disent tout à coup, ah mais oui, c'est ça en fait. Je dois penser à toutes ces choses. Je fais une sorte de chapeautage comme ça.
Sauf erreur, c'était si je me trompe pas. Oh puis peut-être je me trompe. Hein. Mm. Allez. Je crois que c'est Ivan Illich qui parlait du travail fantôme pour parler de toutes ces tâches qui ne sont pas rémunérées et qui sont aussi tout travail du soin aussi.
Ouais.
Oh. Voilà. Je ne lance pas le plus loin.
Oui, mais tout à fait. Je pense que
le travail fantôme, c'était exactement.
Le travail fantôme, ça donne aussi une bonne idée. À propos de cette forme de BD didactique, toi, Léandre, il me semble que tu fais plutôt de la BD narrative. Mais est-ce que tu lis ce genre de BD didactique? Est-ce que tu as pensé justement dans le cadre de ton engagement féministe à faire quelque chose comme ça ou jamais?
Oui, j'en lis de toute façon, c'est sûr, ouais, j'en dévore. Mais non, ça reste sournois de nouveau. Dans notre première BD, je suis pas scénariste. J'avais un scénariste qui travaillait là, mais pour le coup, on a le personnage d'une une sage-femme qui veut devenir rabbin, par exemple. Mm-hmm. Et à la base, moi, n'y connaissant rien au judaïsme, je me suis dit, c'est comme ça, bon, on peut devenir rabbin en étant femme, super, quoi. Et il a fallu qu'il m'explique que, bon, ça se fait, mais c'est pas si courant que ça, mais lui voulait que ce soit pas un sujet central dans la bande dessinée, mais que ce soit... comme il y a quand même eu quelques réactions par rapport à ça dans certaines interviews après la BD où il y avait sur des radios une radio juive je crois qui lui demandait et votre personnage c'est une sage-femme qui veut devenir femme rabbin et lui répondait mon femme elle l'est déjà, elle veut juste devenir rabbin. Deux choses. mais il voulait que ce soit pas le thème central de Elle veut. C'est un personnage qui veut changer de voix. Et elle aurait pu faire ça comme elle aurait pu faire autre chose. Ça a quand même du sens dans l'histoire que ce soit rabbin plutôt qu'autre chose. Mais.
Plutôt en lien avec une forme de spiritualité,
voilà.
Au fond,
ouais.
Me semble-t-il.
Ouais, le fait qu'elle soit sage-femme, c'est pas non plus innocent, disons, là-dessus. Mais par contre, le fait que ce soit une femme, là, c'est quelque chose de totalement secondaire. Il n'y a pas de scandale par rapport à ça dans la BD ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de... Ben, j'apprécie, quoi, quand c'est fait... Quand on fait semblant que c'est normal, en fait. C'est ça.
Quand on départicularise ou on arrête de faire...
Ouais.
Est-ce que je peux, rebondir sur sa fin, sans vouloir prendre... Mais j'ai une amie qui... une amie qui fait de la BD et qui avait été contactée pour une nouvelle revue pour enfants où ils voulaient mettre de la BD dedans. Et donc, il lui avait dit, est-ce que tu peux nous proposer une série? Tu nous fais comme, je sais pas, une dizaine de planches. Donc, elle a été payée, c'est pas au niveau-là. Là, c'était très clair, c'était pas d'exploitation. Mais au final, ils lui ont refusé parce que, en fait, ils lui ont dit... Alors, il se trouve que dans ces personnages, il y avait une des ados qui avait un kick, enfin, un crush sur une autre fille. Et que c'était normal, c'était juste... elle pourrait être... Là, c'est pour parler des ados qui sont... qui ont leurs petits émois amoureux. Et là, il se trouve que juste, c'était sur une fille. Et donc, ils lui ont dit, l'air très lourd, écoute, oui, mais nous, on veut que ça reste léger. On veut pas que ce soit une BD à charge ou une BD explicative, une BD militante. Elle a dit, en fait, c'est des enfants, enfin, c'est des ados, et il se trouve qu'il y en a une qui est homosexuelle. Puis, je veux dire, c'est pas important. Ils ont dit, ah ouais, on va aller plutôt avec l'autre qui fait un truc plus léger, en fait, donc ils n'ont pas choisi. Et vraiment, ils lui ont dit que c'était pour ça. C'est pas elle qui a. Ils lui ont dit. Et ils n'ont pas dit, oh, on est homophobe, on déteste. C'est juste pour eux, parler d'homosexualité, c'était avoir un discours à charge militant. Ça ne pouvait pas être fait.
C'est trop dans la marge.
Parallèle, il fallait que ce soit le sujet. Enfin, pour eux, c'était comme le sujet central de la BD, ça va être l'homosexualité. Alors que pour elle, c'était. Le sujet central, c'était la vie d'un petit groupe d'ados, quoi.
C'était quelle revue ?
J'ai déjà utilisé cet exemple, donc je lui ai demandé si je pouvais utiliser juste l'exemple, mais je vais pas dire son nom à elle ni dire le nom de la revue parce que. Mais c'est pas une revue, c'est une revue québécoise, c'est pas une revue française, enfin européenne. Donc. Ne cherchez pas.
Ouais, j'allais dire, c'est généralement les
Québécois. Mais après, la même revue a fait un moment un dossier sur le genre qui a été applaudi, etc. Et c'est juste que là, c'était un dossier. C'était pas quelque chose de parallèle. C'était le sujet. Il fallait que ça peut pas être quelque chose de. Enfin.
Il y a eu cette réaction-là aussi par rapport à l'expo de la pêche. Hein, plusieurs personnes qui disaient ah, mais en fait, c'est pas féministe. Oui, on peut aussi parler d'autre chose, c'est ça, quoi. Et en soi...
Oui, c'est vrai que j'ai eu une réaction de quelqu'un, là aussi, ça restera anonyme, qui disait « Ah, ouf, c'est pas trop agressif, ouf, c'est pas trop... » Alors que, au fond, le propos, il est ailleurs. Il est de montrer la diversité. Je voulais aborder un autre sujet dans le cadre de cette discussion, mais je voulais juste dire quand même que dans le cadre de notre exposition, j'ai le sentiment en tout cas que l'idée de réseauter, ça a bien fonctionné, puisque au vernissage, il y a eu beaucoup de monde et beaucoup de bûcheuses qui parfois ne s'étaient pas rencontrées auparavant. Donc dans cette idée de la rencontre et des échanges, il me semble que là, on a une preuve par exemple.
Clairement.
Voilà, puis on se lance un peu des fleurs, ce qui est toujours bien. Alors, donc moi, je voulais aborder un sujet un peu différent, ou disons... qui est en lien aussi avec là où on est, c'est-à-dire dans une bibliothèque, et des personnes qui travaillent dans les bibliothèques qui sont présentes. Pourquoi ? Parce que les bibliothécaires qui, mais faut-il le préciser, c'est un milieu professionnel très féminin d'ailleurs, les bibliothécaires, comme les libraires, me direz-vous, ont un rôle à jouer dans la diffusion des artistes, et dans la diffusion des artistes de BD. Donc je vais parler au féminin, hein, vu qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui travaillent dans les bibliothèques. Donc les bibliothécaires, elles achètent... désolée Francisco, hein, mais je pense que tu vas vivre ça très bien. Donc, surtout que c'est toi qui fais les acquisitions chez nous, donc, pour ces BD adultes. Donc les bibliothécaires, elles achètent des bandes dessinées, et puis elles les transmettent au niveau justement du rôle de médiatrice du livre. Elles ont un rôle très important, me semble-t-il, elles le jouent au quotidien, peut-être encore plus parce que la BD c'est un genre quand même qui touche le jeune public ou le public adolescent, qui est un public toujours difficile à cerner en bibliothèque, etc. Donc quand même la BD elle a vraiment son importance, et puis me semble-t-il l'idée de la profession, c'est aussi de montrer évidemment une diversité, qu'il y a une forme de responsabilité sociale et politique, de montrer un maximum de modèles, etc. Et du coup, je me dis, il doit bien y avoir une réflexion à avoir, justement, par exemple, sur la représentation des femmes dans ne serait-ce que les acquisitions. Et bon, pourtant, je sais que c'est pas si simple. Y a l'idée aussi de pas ghettoiser, c'est-à-dire de mettre toutes les femmes d'un côté. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire ? Quel genre de réflexion on peut avoir dans le métier autour de cette représentation ? Quel genre de mesures on pourrait prendre ? Et puis, du coup, Léandre, comme toi, tu travailles dans une bibliothèque, justement, je me demandais s'il y avait une réflexion autour de ça, dans le cadre de ta bibliothèque ou de ta pratique professionnelle, ou est-ce qu'il y avait quelque chose?
C'est embêtant, non? Non, ça fait une pression, on a la double casquette.
Ça te fait une sacrée pression
ouais. Mais, alors, oui, moi j'ai des petits réflexes quand on a des acquisitions, que j'essaie de trouver un certain équilibre entre les 50 nuances degrés et puis autre chose à côté, et puis voilà. Qu'on est aussi pas obligé, mais qui peut aussi avoir amené certains débats par rapport à ça. Mais non, au niveau de la... Bon, après, moi, je travaille dans une bibliothèque un peu grand budget, petit budget, grand public, plutôt. Donc, on est toujours... de toute façon, on est un peu limité par ce budget pour les acquisitions. Si on essaie de... Je peux pas tellement dire que je le fais en tant que bibliothécaire, ce choix-là, c'est plutôt moi, par rapport au fait aussi par rapport à mes goûts personnels et ce que j'espère pouvoir transmettre aux lecteurs. Oui, en fait, c'est ça, bibliothécaire, c'est ça. comment dire? Ouais.
Mais je sais pas. Sinon, s'il y a d'autres parmi vous qui travaillez dans les bibliothèques, est-ce que vous avez parce que, par exemple, si on... Enfin, là, vraiment, je vais peut-être dire quelque chose, vous allez peut-être me dire que c'est faux, mais j'ai le sentiment, par exemple, qu'il y a une réflexion assez poussée autour de la multiculturalité en bibliothèque. C'est un thème qui revient souvent. Proposer des livres dans plusieurs langues, accueillir les migrants, etc. Ou, dans le cadre de la jeunesse, pas mal de choses autour de l'écologie, par exemple, la protection de l'environnement. En tout cas, dans le cadre scolaire, c'est extrêmement important, etc. J'imagine qu'il y a aussi une réflexion sur le genre et ce genre de sujet, mais quelle place pour des écrits féministes, quelle place, quelle réflexion autour justement de cette représentation, parce que on l'a vu, il y a pas mal de femmes, mais au fond on les voit pas parce qu'on les voit pas dans les festivals, puis du coup les médias en parlent pas, donc forcément quand on fait nos acquisitions, bon ben elles vont peut-être moins facilement. C'est une question vraiment ouverte avec vous.
Bon, moi, je trouve que c'est vraiment pas évident. Moi, je suis responsable, entre autres, de l'achat des BD adultes. Donc, je suis assez sensible au genre, etc. Mais dans l'augmentation du pourcentage d'autrices, auteurs de BD, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Marlowe Motin, etc.
Oui, même. Donc, vous voulez dire par rapport à la...
Qui parle de shopping, d'armes...
Ah oui, voilà. Donc, il y a aussi cette idée de ne pas...
Est-ce que je peux rebondir sur le girly? À moins que tu veuilles parler.
Non, pas du tout.
Je peux y aller. Enfin, moi, en tout cas, après, il y a le côté bibliothécaire, il faut faire un peu fou, il y a le côté
bien sûr,
féministe, il y a ce qui est subjectif, ce qui est objectif, et tout ça. Mais c'est vrai que je ne vais pas acheter parce que c'est une auteure femme... Si c'est machin à la con, de shopping tout le temps et de mode, moi ça me tue.
Je suis d'accord pour le mode de
girly. Moi, comme mon culotte, oui.
Non.
Il y a les culottés, je sais pas.
Mais tu vois, par exemple, pardon, je me permets de tutoyer. Par exemple, Pénélope Bagieu, elle a commencé en faisant du girly, et en fait, maintenant, sa réflexion sur ça est super intéressante, et je pense que c'est. Par exemple, Tanks, en fait, a fait un mea culpa sur son blog, parce que Tanks avait écrit une lettre ouverte aux éditeurs pour vraiment descendre les autrices girly en disant ah tu sais parler que de ça, tu nuis à la cause des femmes. Maintenant elle dit en fait je me rappelle très bien d'un moment avec Pénélope sur Twitter où elle avait partagé en fait une campagne de pub qui était clairement du sous Pénélope, quelqu'un qui avait pris son style, qui avait dessiné. Elle avait dit bah pourquoi est-ce que vous me demandez pas à moi de le faire, et elle avait dit à la fille j'ai vu ton blog, c'est super beau ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, et la fille dit bah écoute moi j'ai un appartement à payer, puis pas genre un chat nourri, un truc comme ça. Et en fait, c'est juste que c'est dans le dessin de pub, c'est que ça qu'on propose. Et en fait, le girly, je pense que le problème, c'est au-delà du fait des autrices ou quoi, c'est vraiment un problème de c'est ça qu'on demande aux femmes. Et d'ailleurs, maintenant, la BD girly, au final, Margot Motin continue à en faire. Genre, j'ai pas envie de dire de. Mais disons, parce qu'avant, c'était Digli, Margot Motin, Pénélope Bagieu. Digli, puis Pénélope, elles sont parties, dire, elles ont dépassé ça. Et je veux pas non plus taper sur Margot parce que je trouve ça, je la connais pas du tout, mais je trouve ça. Malheureusement, le girly, ça a été érigé comme le démon de la bande dessinée, alors qu'au final, les femmes, on attendait un peu ça d'elle. Et de l'autre côté, quand t'as Boulet qui va parler de sa vie, oui, peut-être que lui, il parle pas de chaussures et de shopping parce que c'est pas ça qu'on attend des hommes, mais personne va dire, oh, ça, c'est de la BD boyish ou.
Oui, et après, Pénélope Bagieu, je l'ai acheté quand même parce que je trouve que c'est réussi. Et puis, ça m'a beaucoup fait rire, en fait.
Non, mais.
Alors, je dis pas, hein.
Et je sais
qu'il y a vraiment un. tout d'un coup une transformation, une évolution, et puis on en a énormément de ces trucs.
Mais
il y a du sous-boulet aussi.
Tu dis pour les adultes aussi. Ou bien là, on est en section pas adulte ou en plutôt. Je me suis pas dit.
Mais il y a du sous-boulet aussi, mais c'est un truc qui a du succès. Mais il y a des petits.
Ça, on peut se permettre de. Sauf que. Très facilement par rapport à la quantité.
Oui, mais.
Après, dans les auteurs femmes, le problème, c'est que.
Le problème, c'est qu'on va pas dire tous ceux qui font du sous-boulet, c'est boilie, c'est ça.
Mais aussi le pardon.
D'ailleurs, je suis très étonnée que vous soyez publiée chez Ankama.
Oui, moi aussi, ça m'a. D'ailleurs,
Ankama, mais c'est tout sauf féminin.
Oui, et d'ailleurs, en fait, c'est très drôle parce que mon éditeur, j'ai vu. En fait, moi, j'ai pas vu ça, mais on m'a dit, tu sais, la run, il a été interrogé, puis genre un mec l'a accusé comme ouais, c'est pas. C'est sûr que à la fois graphiquement et à la fois dans le sujet, c'est pas ce qu'il attendait. Puis il s'est fait un peu mettre sur pourquoi vous avez publié ça. Puis vraiment, il m'a défendu plusieurs fois. Et ça m'a fait plaisir. Mais oui, il m'a dit bon, après, ça s'est super bien passé de bosser avec eux. Mais par exemple, il m'avait dit oh oui, il faudra. On a parlé en fait de scénarios sur lesquels ils bossaient et tout ça. Et j'avais dit ouais, là, bof, bof. Et puis il y a une amélioration. Enfin, il y a pas. Je sais pas s'il y a une amélioration, mais il a quand même publié 2-3 scénarios ensuite dans Doggy Bags ou des trucs de culture du viol, j'étais comme. Mais bon, mais oui, c'est sûr qu'en cas, mais après, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec eux et c'était très bien et tout ça. Mais pour revenir aux girly, c'est pas. Le problème en fait, c'est ça que je voulais dire à la base, parce que je mets un point d'honneur toujours à défendre quand même les meufs qui font du girly parce qu'elles se font tellement taper dessus, même si je sais que c'était pas ça le propos. Mais du coup, c'est que tu dis que c'est la majorité de la production et en fait, non, c'est la majorité de la production qui est mise en avant.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, qui est mise en avant. Bon, mais voilà. Non, t'as pas dit ça.
Mais en augmentation du pourcentage des auteurs. Mais en fait, 45, il y en a quand même beaucoup qui font ça.
Il y en a beaucoup, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup des trucs de commande, genre c'est le guide de la jeune maman, machin. Mais au final, dans la BD. Mais dans la BD, hein, par exemple, moi je lis quasiment que. Enfin, je lis vraiment que des autrices, mais presque. Et c'est pas du tout un truc militant ou quoi, c'est juste que. Il se trouve que les artistes que j'aime sont souvent des femmes, et peut-être parce que justement j'ai fait une démarche à la base militante de m'intéresser à ce qui se faisait au-delà de ce qu'on voyait. Mais voilà, moi mes autrices préférées c'est des femmes. Et là, par exemple, je sais plus avec qui j'en parlais hier, je disais, il y a un livre d'une amie à moi qui s'appelle Oriane Lassus et qui a fait le merveilleux livre Quoi de plus normal qu'infliger la vie. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous pouvez vous.
J'ai hâte de le voir, ce truc.
J'aimerais que toutes les bibliothèques le possèdent. C'est vraiment une des. Je pense c'est une des. Dans mon top 5 des bandes dessinées que j'ai lues dans ma vie. Ça parle du non-désir d'enfant et c'est très beau et c'est très. Enfin, le dessin est très beau et c'est très très bien. Et en fait, du coup, Ariane, il y a eu un peu. Enfin, je veux dire, c'est un livre d'une qualité assez exceptionnelle et ça, comme c'est de la BD indé, les gens l'ont pas trop vu. Et au Québec, elle a été publiée. C'est ici, c'est chez Arbitraire. Et au Québec, c'est chez La Mauvaise Tête. Elle a gagné un prix BDLIS, pardon. Et ici, il n'y a eu aucun écho sur ça. Enfin, personne n'en a parlé. Et il y a tellement de. Le problème, c'est ça. C'est. Je crois que tout ça. Enfin, on a. Et elle est trop. Mais en fait, je dis ça parce que cette BD, je la trouve tellement merveilleuse et qu'elle a eu tellement peu de couverture médiatique parce que c'est un petit éditeur. Et peut-être que les femmes, on va les trouver. On va trouver beaucoup de femmes dans la BD plus indé que dans la grosse BD, ou en tout cas des. Bref, j'en sais rien. Parce que c'est pas. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup dans la. Mais c'est ça un truc qui m'énerve beaucoup dans le milieu de la BD, c'est qu'on va dire il y a moins de femmes, il y a moins de femmes, il y a moins de femmes. Au final, les femmes, on les trouve très facilement, pas surtout avec celles qui publient maintenant, il y en a vraiment. C'est une grosse partie de la production, très diverse, très variée, etc. Mais il n'y a pas du tout la même couverture médiatique que pour des auteurs hommes. Par exemple, Télérama, je sais pas, je dis Télérama parce que mes parents, je sais pas si ça existe, c'est un magazine télé, mais un peu prout-prout. Bon. Maintenant, je me suis un peu éloignée de ça parce qu'ils mettent un point d'honneur à défendre des agresseurs comme Polanski et tout ça, donc je suis quand même. Des violeurs, même, bref. Mes parents lisent ça depuis que je suis enfant, et je me rappelle qu'à un moment, j'avais regardé, il y a une BD par numéro, parce que quand même, il faudrait pas donner trop de place dans les critiques littéraires, on va pas non plus parler trop de BD. Et c'est quasiment jamais des BD de femmes, par exemple. C'est pas les mêmes les trucs. Déjà qu'on parle pas beaucoup de BD, quand on en parle, c'est clairement pas pour mettre les BD des femmes en avant. Sauf effectivement, voilà, Pénélope, on va en parler parce que elle s'est fait une fanbase avec de la BD plus girly. Puis elle a évolué et ses lectrices l'ont suivie parce que forcément, elle propose de la BD de qualité. Elle propose, voilà. Et donc, comme elle a fait de la pub, c'est aussi un nom qui est connu. Bref, donc elle a eu tous ces trucs-là. Ça fait qu'on va parler d'elle, mais au final.
trouver un équivalent de Pénélope dans le traitement médiatique, alors qu'à côté, Riyad Sattouf, Johan Sfar, des gens comme ça, on en parle. Enfin, y en, enfin bref.
C'est peut-être le moment de parler de l'article du collectif, là.
Mais moi, je ne l'ai pas lu, en fait, parce que j'ai très peu Internet ici. Ouais. Il est sorti, mais...
Moi, je l'ai... Non, je l'ai en tête du moment où on a décidé de l'écrire.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que c'est une réaction vraiment intéressante, parce que, au fond, ce qui est plus important, c'est de se demander pour quelle raison telle ou telle autrice fait de la BD girly. Est-ce que c'est parce, pour différentes raisons, parce que ça la branche de faire ça, ou parce qu'elle y trouve son compte d'une manière ou d'une autre dans sa création, ou si c'est justement une forme d'injonction, ou peut-être d'injonction de ce genre-là, de la part des éditeurs, parce que les éditeurs sont très, justement, sont très intrusifs à ce niveau-là dans le parcours de création. Ils vont dire, cantonne-toi à faire ça, fais ça, etc., parce que c'est ça qui est vendeur. Et toute la, les logiques liées au marché du livre. Mais du coup, je trouve que c'est d'autant plus important si on travaille dans une bibliothèque, parce qu'on est à la fois pris dans le marché du livre, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des millions d'heures pour faire des acquisitions, puis aller chercher dans tous les éditeurs indépendants, mais en même temps, il y a une forme de responsabilité. Et comment composer, en fait, avec ça
Ça va au-delà du fait homme-femme. C'est que les éditeurs indépendants, on en parle beaucoup moins, point.
Exactement.
On prend n'importe quel auteur BD qui est publié chez Kambourakis ou je sais pas qui, on les connaît pas, en fait.
C'est ce dont on parlait sur
homme ou femme.
Sur l'importance des médias aussi.
Après, je sais pas s'il y a une plus grande proportion de femmes qui doivent publier en fait chez des éditeurs indépendants pour pouvoir proposer commande au culotte ou des choses comme ça. Si ça avait paru chez Delcourt.
C'est drôle parce que Delcourt m'a approché, ce que je disais à Alain juste avant, et il me disait c'est intéressant, fais-nous des PDF. Et après, il me disait mais on veut que ça fasse le buzz. On veut être sûr que ça fasse le buzz. Et du coup, en Camargue, ils m'ont dit hey, ça nous intéresse, viens la semaine prochaine, on signe le contrat. Et j'ai dit comme. Puis je les ai rencontrés, ça a super bien passé. Du coup, j'ai même pas contacté Delcourt après. Et d'ailleurs, ils m'ont même pas jamais. Je pense que ça, c'est. Bref. Voilà. Quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit en ce moment, le féminisme, ça marche très bien. Tout le monde veut son projet crocodile.
Voilà. Oui, c'est pour ça que tu as raison, le marché du livre, comme il fonctionne, et les médias, c'est aussi quelque chose à déconstruire et sur lequel poser un certain nombre de questions. Et puis nous, on a fait un petit fil rouge, ou un petit, en fait, ils sont toujours de la même taille, où on a choisi, avec mon collègue Francisco, on a choisi 30 BD réalisées par des femmes, sans aucun autre critère que juste celui-ci. Donc un peu dans la même idée que la bûche, c'est-à-dire ni pour essayer de dégager une thématique ou quoi que ce soit, mais juste montrer une diversité, puis surtout comme tous les fils rouges, c'est-à-dire ces expositions qu'on fait à Bibliomédia de 30 médias, qu'on propose à la location aux bibliothèques. L'idée, c'est juste de transmettre des coups de cœur aussi. Hein. Et honnêtement, moi qui ne connais à part ça rien du tout à la bande dessinée, c'est pas du tout mon domaine, j'en ai lu plein, c'était super. Là, vous avez les 30 d'heures si cela vous intéresse, mais j'en avais bien 50 sur mon bureau, mais hyper vite, quoi. Et j'ai vraiment pas creusé beaucoup. Donc en réalité, assez vite, j'ai trouvé des choses qui m'ont paru, en tout cas, de qualité, justement dans leur diversité, dans l'originalité des points de vue, aussi au niveau des styles graphiques. Etc. Tu voulais parler de l'article justement rapport au plafond de verre.
Ouais. Pour faire court aussi, on a fait avec la bûche, on avait aussi fait un travail avec la bibliothèque de Genève pendant la semaine de l'égalité. On avait fait un petit bûche hors série en fait sur le thème de l'égalité avec 10 autrices. Et puis la bibliothèque avait fait un super travail de sélection aussi les. Comment je. Ouais. Enfin, ils font des petits
bibliographie.
Oui, c'est ça, en fait, une petite biographie avec des sélections de soit
Genève,
sur le thème,
soit
des autrices, soit sur le thème de l'égalité, et puis ça fait un volume, il y en a quoi, vraiment. Et puis
c'est un des hors-séries que vous avez fait, c'est vrai, et on n'a pas dit que vous avez fait aussi un hors-série érotique.
C'est juste
rien aussi. À voir, mais je le place comme ça vite fait. Ouais.
Histoire de. Là, le hors-série érotique, l'idée, c'était. Comme on n'a pas de thème dans les numéros classiques, Là, on a fait un peu appel à celles qui ont déjà participé. En fait, je ne sais pas si j'ai précisé ça, mais dans chaque nouveau volume de La Bûche, c'est 17 nouvelles dessinatrices qui s'ajoutent. Donc, 3 volumes, 3 x 17, 51. Plus encore quelques-unes qui sont juste dans le hors-série, où on avait pris le thème de l'érotisme pour s'attaquer à quelque chose qu'on ferait pas forcément spontanément chacune de son côté, mais un espèce de petit défi collectif, et voir si là aussi on était on retombait dans comme on pourrait tout à fait retomber dans les vieux clichés, ou alors est-ce qu'on arrivait aussi à dépasser un peu les clichés qui sont quand même hyper lourds dans la BD. C'est un peu traditionnellement un truc de mec, et la BD érotique c'est encore plus, quoi. Voilà, donc il se peut qu'il y ait à l'intérieur des choses qui soient très très stéréotypées. C'était pas là non plus l'objectif de faire un truc militant, que le résultat soit pas forcément militant, mais encore une fois la démarche, bref. Je sais plus où j'en étais.
C'est pas grave, parce qu'il y a Milan qui voulait prendre la parole. Et d'ailleurs, je vous propose, si cela vous convient, qu'on ouvre la discussion.
Oui.
Avec toi.
J'ouvre la discussion. Moi, je trouve que c'est une période très excitante en ce moment dans la culture populaire, où on a beaucoup de personnages féminins qui sont forts de plus en plus, que ce soit dans les séries, dans les films. On a les blockbusters, donc c'est dirigé par des femmes, pour savoir Wonder Woman, c'était vraiment un gros budget. Les séries télé, on a par exemple Jill Soloway qui a proposé Transparent, et puis qui va jusqu'à proposer une direction artistique, technique entièrement féminine. Et puis, du coup, cette culture populaire féministe nous propose un female gaze qui va à l'encontre justement du male gaze qu'on nous a proposé jusqu'à présent. Et je trouve que ça nous apporte vraiment un regard féminin beaucoup plus... qu'on peut comparer à ce male gaze, et du coup qui est très intéressant à voir et à observer. Et je me demande, vous, en tant qu'auteur, scénariste de bande dessinée, qu'est-ce que ça fait de travailler dans ce métier? On n'a pas parlé des personnages féminins dans la BD, historiquement. Des blondes, des grosses paires de seins, enfin, c'est tout aussi une représentation un peu des quiches. Hein. Et quelles sont les incidences de travailler dans ce milieu de male gaze,
hein. Juste au niveau des personnages féminins, je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs hommes qui faisaient déjà des personnages féminins intéressants, quelque chose comme ça. C'est toujours un petit peu délicat de se dire. Les hommes aussi peuvent faire des personnages féminins intéressants. Mais là, je te laisse peut-être.
Moi, je trouve que j'ai fait mon mémoire que j'ai soutenu la semaine dernière sur le milieu des scénaristes de série et les liens avec les questions de représentation. Et en fait, le tableau est vraiment beaucoup plus noir que passé. Je suis désolée, je vais arriver et juste donner des mauvaises nouvelles. Mais, par exemple, le Gina Davis Institute on Gender in Media, qui est donc mené par Gina Davis, qui joue Thelma dans Thelma et Louise, et qui maintenant a donc cet institut où elle travaille sur elle veut aller vers l'égalité dans la représentation, à la fois 50% de femmes à l'écran et 50% de femmes derrière la caméra et derrière les scénarios, etc. Et elle dit l'égalité sera atteinte dans 700 ans, au rythme auquel on va. L'égalité de représentation, juste. 700 ans.
Moi qui voulais finir avec un truc positif.
Et elle dit même que ça va en descendant. Enfin, qu'il y a eu un pic descendant, parce qu'en fait, au début, avec. C'est critiquable aussi, mais avec la censure qu'il y avait dans le cinéma. Là, donc elle est états-unienne, donc elle parle des États-Unis, mais dans le cinéma états-unien, où il fallait pas montrer de scènes de sexe, de baisers qui durent plus que 5 secondes et des trucs comme ça. Eh bien, il fallait quand même mettre des intérêts amoureux, des femmes qui devaient être intérêts amoureux, mais du coup, c'était des femmes qui étaient scientifiques, qui travaillent, bon, des fois des secrétaires, etc., mais qui avaient des rôles parlants, qui avaient... Et en fait, le temps d'action, enfin, le temps de présence des femmes à l'écran, je ne sais plus s'il diminue ou quoi, mais le temps d'action qu'elles font a diminué avec la fin de la censure, parce que du coup, ces scènes sont remplacées par des scènes de sexe, des scènes de séduction, etc. Mais bon, et donc pour dire que, et même en fait là par exemple dans, j'ai fait un des entretiens sur lesquels j'ai basé mon mémoire avec une scénariste de série française qui m'expliquait, on parle de ça, puis elle me dit attends, et donc elle va chercher un document qu'elle avait écrit quand elle était en école de scénario, et en fait elle avait pris toutes les séries françaises et écrit à côté si le créateur de la série c'était un créateur ou une créatrice, et en fait il y a comme deux ou trois créatrices en tout sur je sais pas, une quarantaine de séries, et il y a Fanny Herrero, celle qui a fait 10%. Et du coup, elle dit, Fanny Herrero, c'est un peu comme Shonda Rhimes aux États-Unis, il y en a une, et ça marche bien, alors on dit, c'est bon, l'égalité est résolue, etc. Et le problème, en fait, c'est que on est tellement pas habitué de voir des personnages féminins et des femmes aussi qui font des choses, que y a clairement une amélioration dans le sens que maintenant elles sont mises en avant, enfin il y a des personnes féministes qui veulent en parler, et du coup ça fait que bon voilà, mais quand même c'est tellement une toute petite partie, genre là dans mon mémoire les chiffres c'est dans les scénaristes c'est moins de 25% de femmes, alors qu'ils me disent oh, la parité, les gars interrogés, oui la parité est atteinte, je suis comme, puis je vais voir genre ah ouais dans cette boîte tu veux voir là 50%, puis je vais voir et il y a genre 3 femmes pour 15 hommes, je suis comme genre, bref, mais et par rapport aux personnages de BD, c'est sûr que je suis d'accord que des hommes peuvent écrire des bons personnages féminins, mais souvent ils n'en prennent pas la peine. Je pense pas du tout qu'on soit. Parce que moi, souvent, on me dit ah, mais du coup, la représentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire les femmes peuvent écrire des femmes, les hommes peuvent écrire des hommes. Et non, bien sûr, mais par exemple, un homme qui parle de sexisme, c'est tout le temps raté. Enfin, c'est vraiment. Parce que c'est ça aussi, le truc de laisser la parole aux concernés, qui est quand même quelque chose de très important dans le militantisme des luttes sociales et du féminisme aussi, avec notamment les penseuses afro-féministes, du black féminisme en fait, qui ont théorisé ça à la base, aussi les penseuses marxistes, etc. Bref, mais il explique que bah, pour ces questions de lutte sociale, c'est ça le truc du privé et politique, c'est des choses que tu vis qui deviennent ensuite qui sont aussi structurelles, c'est que ça se répertorie à tous les. Bref, et donc du coup, ça fait que souvent, c'est ça, je pense qu'on peut écrire des hommes, des femmes. Tant qu'on pense que c'est des êtres humains et qu'on se dit pas tiens une femme ça va être un intérêt amoureux, et enfin qu'on se pose des questions surtout si on n'est pas concerné, mais le problème aussi c'est que je sais pas, je parle longtemps juste sur ce truc là qui est, hein. Mais juste pour dire que j'ai l'impression que des fois il y a des gens pas concernés qui veulent s'emparer de sujets et qui du coup c'est un peu à côté de la plaque parce que voilà c'est des hommes qui vont penser ou des personnes blanches qui vont parler de racisme et qui au final vont.
En fait, il y a aussi quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui bouge énormément aussi par rapport à ça. Il y avait Isabelle Bautian qui avait écrit un joli texte par rapport à la représentation des personnages, tout ça. Le simple fait de prendre conscience des stéréotypes, elle s'était rendue compte dans sa propre écriture, en fait, des scénaristes. Et le simple fait de prendre conscience de certains stéréotypes, ça l'avait poussée à améliorer son travail simplement en cherchant plus loin. Et je veux dire. Quand je dis les hommes peuvent aussi écrire des personnages féminins intéressants, en fait, ils peuvent en prendre conscience.
Oui,
ça, c'est quelque chose qui le fait qu'il y ait plus de femmes scénaristes ou comme ça, c'est quelque chose qui peut aider, oui, effectivement.
Je voulais pas dire que t'avais tort.
Non, non.
C'est juste, genre, du coup, comme j'ai bossé sur ça, je suis genre, oh non, c'est vraiment horrible tout ce qui se passe, et je suis très négative.
Mais j'ai une prise de conscience qui peut aussi se faire. Et le fait qu'il y ait plus de femmes scénaristes qui vont être plus facilement consciente de ça, ça va faciliter le travail de tout le monde.
Je pense qu'il y a les deux mouvements, hein, c'est-à-dire que je vois bien ce que tu veux dire, Mylène. Je pense que c'est aussi peut-être une réflexion de génération, si j'ose dire.
Je pense à ça.
C'est-à-dire, ouais.
Je vois tout le travail qui a été fait, en tout cas moi.
Voilà, par rapport à nous quand on avait une vingtaine d'années.
J'ai jamais connu une période aussi excitante. Mais après, oui, 700 ans. Ça fout la rage et puis vous êtes beaucoup plus combatif. Alors je suis tout à fait d'accord.
Mais je pense qu'il y a au niveau du positionnement des femmes généralement plus jeunes. Je dis pas que ça existait pas avant, mais j'ai le sentiment que notre génération à nous envoie une très grande différence par rapport à, par exemple, à ta génération, Myrion, dans la manière de prendre la parole au fond. Et la légitimité à le faire. J'ai l'impression que là il y a des changements au niveau des sujets qui peuvent être abordés. Il y a certains tabous qui ont été levés, liés notamment à la sexualité ou des sujets comme ça, où j'ai l'impression qu'il y a 20-25 ans, c'était des choses qui étaient, dont on ne parlait pas. Enfin, on pouvait y penser, on en parlait entre nous, mais il n'y avait aucune,
par exemple le manspreading ou j'en sais rien quoi, là on en parlait l'autre jour. Et donc pour nous, en tout cas pour notre génération, pour nous c'est super positif. Après au niveau de la parité et tout, bon, mais il y a des, c'est pour ça que j'aime bien des fois ce que tu disais de l'institut là, oui, et puis ou le test de Bechdel ou des choses comme ça, parce qu'au fond c'est des moyens assez concrets de poser un regard critique sur une production. Tout le monde voit ce que c'est le test de Bechdel.
Et après, je trouve qu'il y a aussi une amélioration, même à mon niveau, dans le sens... l'amélioration que je vois, en fait, surtout, c'est la libération de la parole. Enfin, dans le sens que... Ouais. J'ai l'impression que depuis qu'on a parlé, c'était le harcèlement de rue, c'était la vidéo de la fille à Bruxelles qui s'était filmée.
C'est ça,
ça fait exploser ça, parce que toutes les femmes... Il y a eu une recherche, là, de je ne sais plus quel ministère en France, probablement le droit des femmes, là, qui a dit 100% des femmes se sont faites harceler dans la rue. Et donc forcément, les femmes, même qui ne disaient pas féministes, parce qu'avant, féministe, c'était un gros mot, blablabla, bon, ben, ça fait qu'elles se lient à ça, puis ça fait que ces questions-là arrivent sur le devant de la scène. Et ça, par contre, je trouve que depuis, je sais pas, 4-5 ans, il y a une amélioration des questions. Ça a été vraiment une porte d'entrée vers le reste des questions féministes. Et là, on commence à doucement à tâtonner vers les questions, vers l'intersectionnalité, genre un peu mais à sortir du féminisme blanc, etc. Bref, donc c'est cool. Et ça, par contre, je trouve une nette amélioration dans la libération de la parole.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais en fait, il y a de choses comme ça, c'est il y a une question qui s'est posée encore en Suisse et un peu avant en France et dans les pays anglo-saxons, c'était de savoir s'il y avait une écriture qui était féminine ou féministe, est-ce qu'il y avait une différence, etc. Et c'est pour revenir sur ce que vous avez dit avant, est-ce qu'il y a, vous considérez qu'il y a un dessin féministe ou féminin, et est-ce que ça permet aussi d'appréhender par exemple l'image de la femme ou des choses comme ça de manière différente de ce que font les hommes ou pas?
Ça, c'est une question qu'on a vue que journaliste nous avait posée au niveau, à la fois au collectif des créatrices et à la bûche. C'est un journaliste suisse qui avait posé cette question-là. Est-ce qu'il existe une bande dessinée féminine? Et des deux côtés, on avait été assez d'accord pour répondre qu'en fait, la question avait été totalement absurde. C'est pas, enfin, qu'est-ce que ça peut autant vouloir dire une bande dessinée qui entre dans les stéréotypes de ce qu'on considère comme féminin, ou alors ça peut aussi vouloir dire une bande dessinée faite par des femmes simplement, et c'est pas la même chose.
Alors si je peux peut-être aller plus loin, les réponses qui étaient données à l'époque par des autrices de Suisse romande, c'était de dire que elle partait du principe que c'était les mieux placés pour parler du corps de la femme, de la représentation de la femme, de ce qu'elle ressent, etc. Parce que c'était des femmes, et que ce n'était pas à des hommes de le faire, et que de ce point de vue-là, leur écriture était différente. Elle parlait aussi d'une histoire, enfin, d'une écriture qui tenait plus du corps. Après, c'est assez abstrait comme concept, mais elles estimaient que vraiment, il y avait une différence. Il y en a une qui parle de Monique Lederer, par exemple, qui allait beaucoup plus loin, puis qui disait que oui, alors l'écriture, c'était carrément un instrument créé par les Grecs pour des hommes, pour asservir la femme. Alors, c'est discutable ou pas, mais elle allait vraiment assez loin, puis elle disait, oui, alors il faut qu'on se réapproprie l'écriture, la manière d'écrire, de raconter, encore une fois, le corps ou les femmes, pour pouvoir justement créer un espace qui soit un peu plus... Enfin, je sais pas comment dire... Où les hommes soient peut-être moins intrusifs, et où elle pourrait dire, finalement, on écrit comme un homme écrit, et puis c'est la même chose. Outre le fait qu'au début, elle parle absolument du fait qu'il y a une différence d'écriture, à la fin, juste pour dire, voilà, mais je peux parler du corps d'une femme en étant une femme, et comme je pourrais parler du corps d'un homme, il faut arrêter de demander aux hommes de parler de la femme, alors qu'il y a des femmes qui sont capables de le faire.
Non, c'est sûr.
Marie, tu veux dire en même temps?
Mais je comprends. Non,
mais côté,
je comprends aussi. Je parle pas du principe qu'il y a quelque chose de...
Le problème dans la question, c'est le fait de poser la question.
Ouais, c'est ça.
C'est cette idée d'arrêter de dire que le féminin est particulier et que du coup, on doit s'interroger. Non, c'est juste la moitié de l'humanité. Donc, au fond, on pourrait dire, oui, les femmes parlent peut-être différemment de certaines choses, mais au fond, c'est une fausse question, je sais pas.
On ne demande pas aux hommes s'ils écrivent une façon.
Oui, il y avait quelque chose. Mais typiquement, on parlait d'avant des bandes dessinées girly, donc on a quand même tendance à mettre des cases, en fait, malgré nous, même si c'est pas quelque chose qu'on représente, etc. Mais comme on va dire, un mec, c'est moi qui parle de vous, quoi.
Ouais, ouais.
Alors que pas forcément, finalement.
Ouais, tout à fait.
Je pense que c'est intéressant, en fait, je suis d'accord avec toi que la question, c'est absurde de dire une bande dessinée féminine, parce que les gens qui demandent ça, souvent, ils pensent, est-ce qu'il y a intrinsèquement, naturellement chez la femme, quelque chose qui va être différent dans son écriture. Alors, si tu poses ça, cette question à des gens pas très, à des hommes qui sont pas très renseignés sur cette question, notamment des auteurs, ça va être, c'est tellement sensible, c'est pas pour rien que les femmes sont beaucoup des coloristes. Oui, c'est sûr que c'est pas parce qu'elles étaient, elles n'avaient pas le droit de travailler comme autrice avant, c'est enfin, pas le droit d'être dessinatrice. Bref, mais il y a ce truc de sensibilité, d'émotion et tout. Bon, pff, après, on peut parler des trucs socialement acquis et tout ça, mais moi, ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est. Je pense qu'il y a une bande dessinée de femmes dans le sens de la classe femme, ouais. Parce que ouais. Effectivement les femmes parlent pas des mêmes sujets que les hommes, parce que c'est ça, la société est pas est construite comme ça. Et surtout ce que tu dis par rapport au corps, je trouve ça intéressant, le, ouais. Parce qu'en fait il y a une, ma théoricienne féministe préférée qui est Colette Guillaumin, qui est mille fois intéressante et en plus très accessible. Elle a écrit, c'est une des seules penseuses françaises qui a écrit sur le racisme en plus. Et bref, et donc elle a écrit, elle parle d'un concept qui est le concept de sexage, où elle explique en gros. Elle est matérialiste, qui est un mouvement féministe. Bon, bref, en gros, il y a les féministes marxistes qui disent ah, le patriarcat est basé sur, le patriarcat, pardon, le capitalisme et le patriarcat, c'est la même chose, c'est basé sur l'exploitation du travail des femmes. Et les matérialistes disent oui, mais en fait, il y a aussi le patriarcat qui est différent du capitalisme et qui lui exproprie les femmes de, enfin, prive aussi les femmes de leur, exploite aussi les femmes. Et donc c'est différent dans le sens que même l'ouvrier, sa femme va lui faire sa bouffe gratuitement et voilà. Et Colette Guillaumin, elle a dit oui, mais il y a le sexage qui est que les hommes volent le corps des femmes, les hommes s'approprient le corps des femmes. Et elle dit par exemple, l'ouvrier, il peut aller vendre sa force de travail au patron. C'est une exploitation, mais il peut aller faire ça parce qu'il a son corps, mais la femme ne peut même pas le faire parce que son corps lui appartient pas, c'est les hommes qui prennent les produits, bref. Et donc c'est très intéressant parce qu'à un moment elle dit les hommes ne permettent pas, enfin la parole sur les choses n'est permis qu'aux possesseurs, et donc les femmes n'ont pas le droit de parler de leur corps. C'est aux hommes de parler de leur corps. Il n'y a que les hommes qui ont le droit de parler de leur corps, et elle dit que c'est très très drôle quand elle écrit. Et donc à un moment, elle cite un exemple d'un chroniqueur radio qui s'offusque parce qu'une femme écrit un livre qui parle du corps des femmes, je ne sais plus quel livre, etc. Et il dit c'est scandaleux, alors que juste avant, il encense un homme qui, lui, écrit un truc à moitié érotique sur. Mais et voilà, et parce que tout de suite, quand les femmes le font, c'est vulgaire, c'est sale, là, là. Et du coup, je trouve ça intéressant ce sujet-là parce que. Ah, tu dis BD féminine, BD féministe, et au final, ce rapport au corps qui est. Enfin, une femme qui parle de son corps, c'est pas forcément féministe, mais au final, ça le devient parce que c'est bousculer l'ordre en place. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on a l'impression que la BD féministe. Moi, par exemple, quand ma BD, on m'a dit est-ce que tu vas faire de la BD pas féministe? Genre, est-ce que si tu fais de la BD didactique, pas didactique, pas féministe, ça sera pas de la BD féministe? Alors que moi, tous mes projets BD, là, Perse et Persephone sur lequel je bosse, c'est un truc narratif, fictionnel, avec deux petites ados. Mais enfin, déjà, il y a genre. Un personnage masculin qu'on voit de loin à un moment, et j'ai même pas fait exprès, c'est juste, enfin bref, mais je sais pas comment dire, je vais pas développer sur mon travail, mais juste c'est pour moi c'est sûr que tout ce que je vais faire est féministe parce que je suis féministe, et même au-delà, comme tu dis, la bûche, c'est ça, c'est une démarche féministe, mais le résultat n'est pas forcément, mais c'est ça la démarche, il y a quelque chose de, dès que je trouve que quand les femmes prennent la parole dans un endroit où on leur autorise pas ça à la base, ça devient d'une certaine façon comme c'est de la résistance, et donc après c'est des questions de termes, etc. Mais d'une certaine façon, c'est féministe dès qu'il y a résistance et dès qu'il y a.
Ouais.
Enfin.
Après, je trouve important de pouvoir quand même faire cette différence. Bah, évidemment, quoi. La bûche, c'est exactement ça. Démarche féministe, résultat qu'il n'y a pas forcément. Et là où moi, je trouve important de prendre conscience que c'est quand même. Pas forcément. Toutes les œuvres de femmes ne sont pas forcément féministes. Parce que. Il n'y a aucune pureté dans le fait de. De naître femme et d'avoir tout de suite les idées pures et claires. En fait, c'est un peu plutôt pour moi, justement, pour rester consciente du risque qu'il y a à reproduire encore, nous, des stéréotypes, encore et toujours, quoi, que je préfère plutôt prendre recul et me dire, voilà, féminin, faire cette différence entre un travail, ce qu'on appelle bande dessinée féminine, si c'est quelque chose qui est fait par une femme ou qui est associé à des même pas des stéréotypes, mais aussi un archétype féminin. Je suis pas forcément contre, je me pose pas forcément au fait qu'il y ait un archétype du féminin, surtout s'il n'est pas réservé aux femmes, en fait. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Ok. Sûr.
vous travaillez sur une BD en ce moment?
Mm-hmm. Oui, ça prend du temps.
voilà.
Avec un scénariste, avec un non-scénariste, ouais. Un vieux pote. rien de là, rien de très très.
Pourquoi pas une scénariste?
Bon. J'ai des vieux, c'est des vieux projets qui traînent dans les tiroirs depuis longtemps, et puis j'avais pas encore la bûche au moment où j'ai décidé d'attaquer ça. Voilà. Puis bon, elles font très bien aussi le dessin elles-mêmes. Donc, non, lui aussi est dessinateur, donc ça, lui aussi dessine très bien. Si, si. Mais bref. Ouais, en tout cas, notre éditeur est intéressé, ouais. Et puis on verra. Ça va prendre du temps encore. Ça fait 2 ans que je fais de la recherche documentaire parce que ça se passe. Avant la Première Guerre mondiale, et il n'y a pas beaucoup d'images en fait. Donc pour trouver des vêtements et tout. Et... Ah tiens, pendant que j'ai des bibliothécaires dans la salle, j'ai une grande question que je me pose. Voilà, dans le genre de recherche documentaire que je fais, je me demande quelle était la technique d'éclairage dans les cirques en 1913. Voilà.
Faut que tu demandes ça au guichet du savoir, ouais, à la bibliothèque de Lyon.
Voilà, c'est un peu ça.
De la médiation grâce au numérique, là, comme on dit.
Pour le moment, j'en étais là, et puis après, il y a eu la bûche, ça m'a quand même beaucoup pris de temps pour faire la coordination. Mais voilà, la prochaine. Maintenant que l'expo. Enfin, quand on aura démonté l'expo, je vais un peu attaquer le truc plus sérieusement. Et... Mais pas de, encore une fois, pas forcément un truc ni pédagogique, ni militant. Narratif, ouais.
J'aurais voulu terminer. Alors, bon, après, il y a la possibilité d'acheter les bûches, d'acheter les livres, de les faire dédicacer même, et bien sûr de faire un tour de l'exposition qui, vous l'avez vu, est dans cette salle, mais aussi dans le hall et dans les escaliers. En bas, vous avez, j'ai dit ça, en bas, vous avez la bûche numéro 1 dans le hall, dans les escaliers, vous avez la bûche numéro 2, ici la bûche numéro 3. Mais j'aurais voulu finir avec une question un peu bateau. Mais bon, je la pose quand même, parce que j'ai vu que c'est un peu en demi-teinte, hein. J'ai l'impression qu'il y a à la fois énormément de choses positives qui se passent dans cette prise de parole et cette émancipation par les femmes dans le monde de la BD, puisque c'est ça notre sujet. Mais il y a quand même pas mal de choses vraiment problématiques. Du coup, j'aurais voulu savoir ce que vous auriez envie de dire à une toute jeune fille qui voudrait se lancer justement dans l'expérience de la création de la bande dessinée. Qui veut commencer?
Viens dans la bûche.
Viens dans la bûche. Bah oui, c'est aussi ça qui est chouette dans la bûche, on ne l'a pas dit, c'est que c'est intergénérationnel, si on peut dire. Oui. Hein. Faut des autrices très expérimentées, et d'autres beaucoup plus jeunes qui se retrouvent publiées dans le même...
Ouais. Et même des autrices...
Même, le même livre, quoi.
Et même des autrices d'un certain âge, mais inexpérimentées.
Voilà, c'est aussi une très chouette démarche, bah, c'est quelque chose qui est inhérent aussi à la publication indépendante, à l'autopublication. Ouais. Donc, viens dans la bûche, ok.
Je sais pas, ouais. Allez, je ferai une réponse plus intelligente après.
Bah, mais en fait, un peu pas. Enfin, similaire dans le sens de. Moi, je dirais de dessiner, d'ouvrir un blog, de faire de la. Peut-être, c'est un peu compliqué, fais de la micro-édition de films, mais juste de pas trop se prendre la tête, parce que des fois, on me dit, mais ouvrir un blog, je sais pas, les gens vont. Pff, non, fais-le quand même. Enfin. Genre, faut pas avoir peur, lancer. Et puis, autre conseil, ça serait de lire. De justement lire des femmes dans le sens pas pour s'inspirer, mais juste pour savoir qu'on existe. Et d'essayer de lire le plus d'autrices possible pour voir la diversité, etc. Le fait de pas être enfermée dans quelque chose. Parce que tu dis toute jeune fille, donc je pense que c'est quand même important d'avoir des. Et puis après.
L'ado, quoi, je pense.
Un autre conseil qui est plus bateau, mais qui en même temps rejoint aussi le tien, c'est. De se créer un réseau, d'être en contact avec d'autres femmes qui font de la BD. Un réseau, c'est pas forcément, c'est pas du réseautage comme les gens qui font des start-up et qui sont. Mais dans le sens de. Vraiment rencontre des personnes qui font de la BD, d'autres femmes qui font de la BD, parce que c'est la sororité, c'est important, c'est vraiment, c'est le plus crucial, surtout dans un milieu comme ça qui à la fois est difficile d'accès quand on est une femme pour l'édition et qui est dangereux pour une femme quand on est dans les festivals, etc. Parce que les hommes qui évoluent dans ce milieu sont pas des hommes safe. C'est, il y a quand même des violences un peu silencieuses, etc. Donc très important, crée-toi un réseau, trouve-toi des voilà. Et ça peut se faire par l'école, ça peut se faire par internet, ça peut se faire par des projets comme la bûche qui est, je trouve, vraiment merveilleux dans cette démarche-là. Voilà. Désolée, c'est pas très.
Non, mais j'allais répondre exactement ça, le côté du réseau, le côté d'avoir de trouver des gens avec je peux plus parler. s'entourer de quelqu'un, de certaines personnes. Du coup, ça a déjà été dit.
Ok. Est-ce qu'il y avait encore une remarque finale?
Moi, j'ai, quand ma fille aînée, j'étais en bibliothèque et j'étais demandé des BD avec des héroïnes, avec un grand H. Et puis, du coup, j'en étais quand même partie avec une BD de Marion Duval, voilà, des choses comme ça. Puis ma fille a été nourrie à ça. Puis on a, j'ai organisé un atelier à la bibliothèque jeudi passé où il y avait 20 femmes et un homme. Et à la fin, il y avait ma fille qui était là, qui avait 17 ans. Et à la fin, cet homme vient vers moi, il me dit « Ouais, j'étais tout seul, j'espère que ça a été quand même pour vous. » J'ai dit « Oui, j'espère que ça a été pour vous, pas de souci. » De toute façon, c'est représentatif, hein, en bibliothèque, c'est majoritairement féminin. Et on me dit « Ah bon, je ne crois pas. » Si, 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 majoritairement, des usagères, plutôt des usagers, des lectrices. « Ah non, non, mais alors peut-être que les femmes empruntent plus, mais en tout cas, les hommes achètent plus de livres. » Puis bon. Moi, j'ai été un petit peu empruntée, je ne sais pas quoi lui répondre. Et ma fille, il dit au tac, ouais, ben, avec 20% de salaire de plus, ils peuvent se voir.
C'est super bien. C'est hyper bien. Ben voilà, ça c'est. Merci, Mylène, pour cette magnifique. On te racontera la blague après.
C'est enregistré.
Oui, c'est enregistré. Ok,
je peux juste encore peut-être vous inviter à aller voir le blog du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme qui a mis un article hier, je crois, j'étais un peu perdue dans le festival, j'ai pas tout suivi, bref, où il y a une super petite enquête qui a été faite sur le nombre de femmes interviewées dans les magazines spécialisés en bande dessinée. 7%,
ouais,
en tout cas dans un magazine. Et il y a un travail qui a été fait pour aussi prendre contact avec le rédacteur en chef, pour essayer de discuter de ça avec eux. Et l'article est vraiment super. Voilà.
Est-ce que le rédacteur en chef a répondu?
Oui, oui. Mal.
Oui, oui, c'est ça, ouais, il répond, hein, c'est ça que tu disais.
Oui, il y a les réponses du rédacteur en chef et quelle mauvaise foi. Enfin, il n'y a pas que l'intention qui compte, ça, on s'en prend bien compte aussi, et puis c'est jamais de la mauvaise volonté. Hein, c'est... Mais c'est important, ouais, ce qui est dit aussi clairement dans l'article, c'est le simple fait de prendre conscience qu'il y a des réflexes sexistes, qu'on a tous. Même la plus radicale des féministes aura des réflexes sexistes. Le simple fait d'en prendre conscience, ça peut déjà beaucoup, beaucoup atténuer les choses. Alors je pense que... Ouais, j'étais quand même un peu frustrée de ne pas avoir répondu sur les bibliothèques, là. Je pense que c'est
de faire des choses en bibliothèque.
Ouais, pour le... Je pense que déjà, le garder en tête, le fait qu'on a toutes tendance à... spontanément, aller mettre des hommes en avant, par exemple, c'est déjà une grande chose, quoi. Sans forcément faire des expositions dédiées au sujet. Même si à lire, pourquoi pas, aussi. Mais... Voilà.
C'est quand même merveilleux ce collectif, parce que ça fait plusieurs fois que des hommes nous répondent vraiment... Enfin, j'ai pas lu la réponse du coup, mais ils répondent avec beaucoup de mépris, comme le directeur du festival qui, quand il a vu le truc, était... Et le fait qu'il soit affiché et que ça reste gravé dans Internet et qu'il puisse plus se permettre de le faire en privé à des... J'espère que ça va faire qu'ils vont maintenant, ils vont se dire, réfléchir à deux fois avant de se permettre de... Ouais. Quelle merveille.
Ok, je vous remercie beaucoup, je remercie nos invités et je vous remercie d'avoir été là et je vous invite à poursuivre les discussions dehors de cette salle où il fait très chaud maintenant. Merci beaucoup.